matin de février 1767. Sur les quais de l'Arsenal, on embarque les derniers marins à bord de l'Étoile, un trois-mâts de la Marine Royale. Il y a ceux qu'on ramène ivres-morts depuis les tavernes du port, parfois les fers aux mains. Une dernière beuverie, une dernière bagarre avant la grande aventure qui les attend. Quelle aventure ? Le tour du monde. Pas moins que ça. Le vent d'hiver fait siffler les gréements des innombrables bateaux qui peuplent le premier port militaire français au XVIIIe siècle. Depuis des jours, les palans de l'Étoile grincent sous le poids des provisions qui s'entassent dans les cales. Pour accélérer les opérations, on roule les derniers tonneaux d'eau douce sur le pont supérieur et on les arrime. C'est qu'il n'y a plus de place dans les cales. Les moutons et les volailles font aussi partie des derniers passagers embarqués dans un concert de bêlements et de piaillements. De l'intérieur leur répondent les meuglements des vaches, déjà à bord. Le navire est rempli, à tel point que sa ligne de flottaison a atteint la limite réglementaire. Pour cette mission, l'Étoile ne transporte pas que de l'avitaillement. Des caisses d'un genre particulier ont aussi été acheminées à bord, entourées de soins immenses. Et puis, il y a ce botaniste, Monsieur Philibert Commerson. Et surtout, il y a son assistant, Jean Barrett. Sa tête ne me revient pas, celui-là, affirme Pierre Le Goff, le quartier maître. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, Le Goff ? Te mêle pas des affaires de ces messieurs de la haute ? Lui assène le charpentier du bord. Ouais, j'ai bien ma petite idée, mais attends qu'on soit en mer. Je te promets une drôle de surprise avec ce Jean Barrett. Nous sommes le 1er février 1767. Il est 14h et c'est leur hache de mon histoire. L'Étoile largue les amarres et quitte la rade de Rochefort. Le bateau transporte un passager interdit à bord de tous les navires de Sa Majesté le roi Louis XV. Une femme. Elle s'appelle Jeanne Barrett. Rebaptisée Jean Barrett. Elle fait partie d'une aventure qui va la mener autour du monde. Jeanne entretient une relation particulière avec Philibert Commerson. Au début, cette jeune paysanne illettrée n'était autre que la servante de l'illustre botaniste. Son intelligence a d'abord conquis l'homme de 20 ans, son aîné, si bien qu'il lui a appris à lire et à écrire. Jeanne est d'abord son assistante personnelle, puis beaucoup plus que cela. Elle devient celle avec qui il partage sa vie, mais toujours dans la plus grande clandestinité. Plusieurs raisons. La première, et de loin la plus forte, est celle de la classe sociale. Un savant comme Philibert Commerson ne peut décemment pas se marier avec une paysanne. Impensable à une époque de ségrégation sociale qui cimente la société française. Un système de caste qui mène le pays vers la Révolution française. Révolution qui va bouleverser un ordre social qui semblait immuable. Mais pour cela, il faudra encore attendre 22 ans. Quand l'Étoile quitte La Rochelle vers le Nouveau Monde, ce 1er février de 1767, Jeanne se fait appeler Jean. Elle jure et crache comme un homme. Et comme la chance sourit aux audacieuses, le maître et son valet, ou plutôt le couple illégitime, s'est vu octroyer la cabine du capitaine. Philibert est un botaniste dont la réputation a fait le tour de l'Europe. Le capitaine, tout gentilhomme qu'il est, s'est immédiatement proposé de lui céder sa cabine personnelle pour abriter une partie du matériel scientifique ainsi que le botaniste et son valet. Oh, c'est une chance. Sans cette courtoisie, Jeanne aurait été perdue parmi les 200 hommes embarqués à bord de l'Étoile. La seule femme parmi un équipage exclusivement masculin. La supercherie n'aurait pas tenu longtemps. Pistolet dans la ceinture, main noircie, elle invente un personnage de dur à cuire pour donner le change. Sa petite taille et son absence de poils au menton, quand même, a plaisanté le quartier maître Le Goff, ne passe pas inaperçu. Un matelot lui caresse même les joues dans une coursive en lui demandant son secret pour se raser aussi bien. Elle plante ses yeux dans ceux du marin et lui répond « T'as jamais vu un imberbe de ta vie ? Sur quoi ? L'imprudent repart penaud. Bonnet rouge sur le crâne, pantalon et chemise en toile sortie de la veste bleue, couleur réglementaire de la marine royale, il faut bien reconnaître que le valet de Commerson ne démérite pas. Il ou elle est même sacrément rude à la tâche. Toujours là pour prêter main forte sur le pont. Pas comme son maître, qui ne sort plus de sa cabine. Oui, c'est que Philibert Commerson souffre du mal de mer depuis les premières encablures. La santé du botaniste n'est déjà pas très bonne. Il souffre d'un ulcère sur la jambe, contracté au fil de ses pérégrinations à la recherche d'espèces végétales. Pour tout dire, il aurait jamais dû embarquer à bord. Mais l'attrait de ce monde nouveau, rempli de variétés encore inconnues, a été le plus fort. Et puis, il y a aussi la demande du roi en personne, qu'il a désigné comme botaniste officiel de l'expédition montée par Bougainville. Une expédition scientifique et pacifique dans le plus pur esprit des Lumières qui illumine ce siècle où la soif de connaissance n'a d'égal que la soif de liberté et d'égalité qui anime la société française. Pour Bougainville, il s'agit de connaître mieux ce monde nouveau qui s'ouvre aux puissances européennes. Géographe, ingénieur, cartographe, astronome, les meilleurs scientifiques du royaume ont embarqué à bord de la boudeuse et de l'étoile. Il s'agit de collecter un maximum de connaissances au cours de leur tour du monde. Le but est bien entendu scientifique, mais aussi économique et militaire. Celui qui possède la connaissance possède bien des atouts. Alors la haute mer n'arrange rien à l'état de Philibert Commerson. Il passe la traversée de l'Atlantique couché. Heureusement, Jeanne est là, infatigable. Dans l'intimité de leur cabine, c'est elle qui trie, range et prépare le matériel nécessaire à leur mission. Celle de répertorier toutes les espèces végétales croisées au cours de l'expédition. L'intimité de leur minuscule cabine représente un véritable luxe à bord. Sur ces navires surchargés en hommes et en matériel, la promiscuité fait partie des épreuves à endurer pendant les très longs mois en mer. Et elle est aussi rude que les tempêtes ou les maladies. Les matelots dorment sous le pont, dans des hamacs, en proie à l'humidité, au froid austral ou à la chaleur suffocante des tropiques. Les soldats et les officiers ne sont guère mieux logés. Quand elle rentre dans leur cabine de 12 mètres carrés, son havre de paix et de sécurité, Jeanne peut enfin enlever le bandeau qui lui compresse les seins et respirer normalement. Elle est à l'abri dans cet espace fermé, faiblement éclairé par deux minuscules fenêtres et une lampe à huile. Jeanne se cogne contre l'une des poutres de ce plafond qui ne permet même pas de se tenir debout. Elle lâche un juron qui réveille Philibert Commerson installé dans un hamac. L'homme est épuisé par le mal de mer qui ne le lâche pas. Le botaniste, toujours nauséeux, ne peut plus lire. La moindre lecture le rend encore plus malade. Jeanne, peux-tu me lire le classement de ces fougères Dryopteris ? Le relevé du 14 octobre de l'année passée. Philibert, mon cher ami, ne pourriez-vous pas vous reposer un tant soit peu ? Dit Jeanne, en s'asseyant sur l'unique banquette de la cabine. La jeune femme a besoin de souffler. Après une nuit de tempête passée à aider l'équipage, à arrimer les tonneaux sur le pont. Une véritable gigue avec l'océan. Et dans les cales, il a fallu abattre un bœuf paniqué qui menaçait de défoncer les sabords. Maintenant, la tempête s'est calmée. Ne subsiste qu'une longue houle et un ciel gris. Seule consolation, la température est toujours si douce. Sur la tablette du bureau, elle rattrape le bol fumant qu'elle a déposé en entrant. Nous nous devons d'approfondir nos connaissances avant de débarquer sur ces côtes inconnues, lui dit faiblement Philibert. Oui, très bien, mais avant cela, prenez ce bouillon, ça vous fera du bien, répond Jeanne. Oui, je sais, il faut que je m'hydrate. Son teint livide éclairé par la flamme renvoie l'image d'un homme prématurément vieilli. Vous en avez peut-être le diplôme. Mais vous ne goûtez guère au métier de médecin, mon ami. Descendez donc de ce hamac pour prendre votre bouillon. Oh, Jeanne, tu ne te doutes pas du supplice que j'endure à chaque mouvement de ce bateau. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Cela s'arrêtera dès lors que nous rejoindrons la frégate de Monsieur de Bougainville, qui nous attend de l'autre côté de l'Atlantique, et vous le savez très bien. 21 juin 1767, l'étoile retrouve la Boudeuse, le navire de Louis-Antoine de Bougainville. Ce matin-là, plus rien ne bouge. D'une caresse sur le front, Jeanne réveille Philibert. Par les minuscules hublots, elle aperçoit ce monde nouveau, éclatant de soleil et de verdure. Au matin, les deux navires ont mouillé dans la baie de Rio de Janeiro. Philibert, réveillez-vous, chuchote Jeanne. L'homme ronfle toujours aussi fort. Rien ne peut le réveiller, même la chaîne d'ancre qui s'est déroulée dans un fracas épouvantable. Philibert ! Crie Jeanne dans l'oreille du scientifique. « Mais que se passe-t-il, nous coulons ?» hurle l'homme en se réveillant en sursaut et en se cognant la tête au plafond. « Alors tes familiarités commencent à bien faire, Jeanne. Non, tu te prends pour qui ?»« Je ne sais pas, » fait malicieusement Jeanne. « Votre amante, votre assistante ou assistant ou un marin, un valet, décidément le choix est large. Mais arrêtez de bougonner, mon ami, et regardez. » Philibert n'en croit pas ses yeux. Rien que ces îlots de verdure qui jalonnent la baie de Rio sont extraordinaires. Son regard exercé aperçoit déjà des espèces végétales inconnues, des chapelets d'oiseaux se détachant de ce foisonnement végétal vers le ciel. Certains sont rouges, verts, bleus. Oh, c'est extraordinaire, Jeanne, c'est extraordinaire. Prépare le matériel, nous sortons immédiatement. Oui, mon ami, il est temps d'herboriser. Non mais plus que cela, Jeanne, plus que cela. Il est temps de partir à la découverte d'espèces inconnues. Oui, Philibert, oui, mais faites attention à votre jambe. Ah, maudite santé, lâche le scientifique d'un ton amer. Bah, vous l'avez épuisé, mon cher. C'est bien pour cela que vous avez besoin d'un assistant, même si c'est une femme. Maître et son étrange valet vont à terre presque tous les jours. Ils s'aventurent dans la forêt vierge et en reviennent chargés d'espèces végétales qu'ils classifient pendant des heures dans le secret de leur cabine, à la lueur des lampes à huile, faisant sécher les feuilles, prenant des notes. À bord, un secret est déjà tombé. Ce Jean Barrette n'est pas un simple valet, c'est l'assistant du botaniste. Il s'y connaît aussi bien que son maître. Il sait lire, écrire. En plus, on dit que le valet ou l'assistant, on ne sait plus trop au juste, n'hésite pas à contredire le scientifique, ou même à organiser les relevés et le classement des espèces avec les marins qui ont pour ordre de les aider. Le goff et ceux qui cultivent la suspicion sur l'identité de Jean Barrette ne recueillent guère de succès. Pour tout dire, Jeanne s'est fait sa place parmi l'équipage. Elle est rude à la tâche. On l'appelle même la mule de Commerson. Elle ne donne jamais le moindre signe de fatigue. Sur l'embouchure d'une rivière qui se jette dans la baie de Rio, Philibert est émerveillé par une fleur encore jamais vue. Une sorte d'arbuste sur lequel des myriades de fleurs en forme de clochette explosent de leur couleur violette. Les pieds nus dans le limon drainé par le cours d'eau, Philibert appelle Jeanne. Ben, viens voir, c'est extraordinaire. L'avons-nous jamais rencontré, demande la jeune femme. Jamais, jamais. Nous l'appellerons Bougainville, déclare Philibert, en l'honneur à celui à qui nous devons d'être dans ce paradis terrestre. Et moi, me donnerez-vous jamais le nom d'une fleur, demande Jeanne. Toi aussi, Jeanne, tu l'auras. Mais ici, c'est à l'esprit des Lumières que je veux rendre hommage, et Bougainville l'incarne à la perfection. Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, et Bougainville, ainsi que toute une génération de scientifiques dont Philibert Commerson en sont les défenseurs. Tous sont convaincus par les écrits de Voltaire, de Rousseau, de Diderot et bien d'autres. Ils œuvrent pour le triomphe de la raison, du savoir et de la liberté face à l'ignorance et l'intolérance. La boudeuse, Louis-Antoine de Bouquinville n'est pas dupe de la vraie nature de l'assistant de Commerson. Il sait qu'il risque de très sérieux ennuis si on découvre qu'une femme est montée à bord. Enfreindre une ordonnance royale est extrêmement grave. Mais sans cette Jeanne, le travail de Commerson serait impossible. Le scientifique est en trop mauvaise santé, malgré ce qu'il prétend. Cette jeune femme possède des connaissances scientifiques et une vigueur peu commune, transmise par celui qui n'est autre que son amant. Ce cher Philibert, songe en souriant Bougainville, tout en bourrant sa pipe en pierre. Sans la présence de Jeanne, l'expédition perdrait de précieuses connaissances, se dit-il. Et puis, Bougainville doit bien le reconnaître. L'idée qu'une femme assure un rôle scientifique dans cette expédition n'est pas pour lui déplaire. L'égalité des droits ne commencerait-elle pas aussi entre hommes et femmes ? Aime-t-il s'interroger, accoudé au bastingage face à la nuit qui a recouvert la baie de Rio ? De la côte, lui parviennent les rumeurs des comptoirs portugais. Toute une vie s'est développée, toute une économie basée sur le commerce d'esclaves. Une autre injustice. Particulièrement ignoble, s'indigne-t-il à chaque fois. Puis, il en revient à son problème immédiat, cette Jeanne Barrett, avec toujours la même conclusion. Laissons les choses en état. Si la véritable nature de ce Jean Barrett venait à être découverte, eh bien, nous feindrions l'ignorance, se rassure le capitaine et chef d'expédition. À Bay de Rio, d'autres escales ont lieu sur les côtes d'Amérique latine. À chaque fois, Philibert et Jeanne descendent à terre. À chaque fois, c'est un déluge de nouvelles espèces à classer et à nommer. Commerson ne se ménage pas, mais le chirurgien de bord le met en garde. Son abcès pourrait tourner à la gangrène. Jeanne finit par lui faire entendre raison. C'est elle, désormais, qui mène les expéditions à terre. Parfois, elle transporte tout le matériel elle-même. On la voit faire des kilomètres, collectant des centaines d'espèces. Malgré les conditions extrêmement rudes de l'hiver austral que l'expédition rencontre en terre de feu, à l'extrême sud du continent sud-américain, Jeanne gravit les montagnes enneigées qui bordent le détroit de Magellan, sans jamais faiblir. Les bateaux cheminent péniblement à travers les chenaux de ce détroit très compliqué à la navigation, pour ensuite arriver dans l'océan Pacifique, énorme, infini. L'horizon semble ne jamais vouloir dévoiler la moindre terre. Même si les conditions sont rudes, l'équipage a confiance dans le chef d'escadre. Bougainville est un capitaine compétent et avisé. Sans doute poussé par son humanisme, il gère parfaitement les réserves d'eau douce et se préoccupe en premier lieu de l'avitaillement en produits frais de l'équipage. C'est pour cela qu'après une année de voyage, l'expédition ne compte presque aucun décès. Ponctué de terre, des îles, comme celles que les deux bateaux repèrent un jour d'avril 1768. Deux volcans signalent leur présence très loin sur l'horizon. Ils sont arrivés à Tahiti. Et il était temps. Les réserves d'eau et de vivres sont épuisées depuis plusieurs jours. Des cas de scorbut sont signalés sur les deux bateaux. Il leur faut à tout prix de la nourriture fraîche. Les deux navires aux couleurs de la France jettent leur lourde ancre face à ce qu'ils devinent être un village habité par des humains. Très vite, des pirogues les encerclent. Une myriade d'hommes et de femmes au sourire éclatant leur tendent fruits, eau, viande grillée à profusion. La plupart des femmes sont nues. Les hommes proposent aux marins de faire connaissance avec elles. Tous crient « Taïo ». Taïo, ce qui veut dire « ami ». Cet accueil marquera les équipages français à tout jamais. Ces officiers et scientifiques influencés par l'esprit des Lumières estiment avoir découvert le paradis perdu. Bientôt, ce sont des centaines d'habitants qui entourent les deux bateaux. toile, le cuisinier perd la tête et saute à l'eau pour aller rejoindre toutes ces femmes qui lui font signe depuis la plage. Il est accueilli par des cris de joie. Mais à peine sur le sable, les femmes se jettent sur lui et le déshabillent intégralement. Voilà notre cher cuisinier nu comme un ver, ne peut s'empêcher de plaisanter le capitaine de l'étoile. Le cuisinier, seul sur la plage, commence à paniquer et se met à courir, poursuivi par une horde de femmes. Il finit par se jeter à l'eau. Une pirogue le hisse et le ramène à bord de l'étoile. Jeanne est prise d'un fou rire incontrôlable. Depuis la dunette où elle est montée pour mieux apprécier ce spectacle incroyable. L'île de Tahiti est aussi un trésor de diversité végétale. Une fois débarqués à terre, le maître et le valet ne peuvent s'empêcher d'observer les mœurs de ces populations, à commencer par la liberté sexuelle et l'absence de pudeur. Ils ne les condamnent pas, bien au contraire. Ils voient là l'idéal du bon sauvage de Rousseau. Le paradis terrestre, Jeanne, il est ici. Ces hommes et ces femmes vivent en parfaite harmonie avec la nature. Mais ils forniquent à tout va, lui réplique Jeanne.